나갈 말은
Bonjour, voilà, nous nous retrouvons sur les ondes de Radio Galère dans le nouveau format des carnets hebdomadaires de Comaguerre pour commenter l'actualité internationale abondante. Alors, pourquoi on se retrouve dans ce nouveau format? Précisément parce que, je viens de le sous-entendre, l'actualité est débordante. Débordante, troublante par beaucoup d'aspects, difficile à expliquer ou mal expliquée par des gens qui vont trop vite. C'est-à-dire que ce qu'on constate d'une façon générale, c'est la difficulté du journalisme tel qu'il se pratique aujourd'hui dans nos contrées. C'est-à-dire d'aller au-delà de l'événement immédiat de la veille ou d'une heure avant et d'essayer de resituer chacun de ces événements dans un contexte historique plus large. C'est à ça que, vous l'avez compris, nous nous employons dans la mesure de nos moyens, car on finit par ne plus rien comprendre tant tout est contradictoire. Alors, tout est contradictoire. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine homogénéité de la lecture occidentale des événements mondiaux. Alors, quand je dis lecture occidentale, j'en arrive même à dire de la transformation et de la mystification occidentale. Donc, on est chaque fois à mi-chemin. On ne peut pas dire que c'est à chaque fois une mystification. On ne peut pas dire que c'est la vérité. On est chaque fois en train d'essayer de voir est-ce que ça tient debout, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est vérifié, ou est-ce que c'est simplement une invention parce que ça s'inscrit dans un discours propagandiste qui, lui voit loin, c'est-à-dire qu'un discours propagandiste, ça ne vient pas de nulle part et ça essaye de durer le plus longtemps possible puisque c'est un outil entre les mains des puissants et quelquefois les inflexions sont mineures, pas détectables dans l'instant parce qu'effectivement les gens qui organisent cette propagande se rendent compte qu'ils sont allés trop loin dans la caricature, dans le mensonge et donc petit à petit, les événements, petit à petit, leur donnent des coups de pied aux fesses, si j'ose dire, en disant là, on peut plus dire ça tout à fait dans ces formes-là parce que ça n'est plus acceptable du tout. Et c'est ça le travail extrêmement délicat, de plus en plus délicat, puisque en fait, l'intérêt, il est de plus en plus délicat parce qu'il y a de plus en plus de sources, c'est-à-dire que quand on prend le temps, comme nous le faisons dans l'équipe de Comaguerre, d'aller regarder dans d'autres continents, sur d'autres sources, sur d'autres médias, nous nous apercevons qu'il y a d'autres lectures qui sont possibles. Mais il faut bien prendre conscience et nous vous invitons, auditeurs, auditrices de Radio Galère, à prendre bien conscience de ça. Vous êtes dans un bain propagandiste d'un niveau d'élaboration extrêmement avancé et qui ne se démolit que quand les événements viennent totalement le contredire. Et c'est pas toujours, et l'événement qui vient contredire, il n'arrive pas au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois. Il y a tout d'un coup un moment historique où toute la littérature, toute la propagande, tout le lavage de cerveau va tout d'un coup s'effondrer parce que effectivement les faits ont dit exactement le contraire de ce qu'on a essayé de nous démontrer pendant des semaines, pendant des mois. Je vais commencer par un petit phénomène qui est en soi très très révélateur de cette lecture occidentalo-centrée des événements en vous parlant de la première journée, du premier tour de la nouvelle élection présidentielle en Roumanie. Alors là, on est dans le Caucase puisque vous savez que l'élection présidentielle telle qu'elle avait été organisée dans des formes assez classiques par le gouvernement au pouvoir, fut-il pro-européen d'une façon extrêmement avancée, on le savait, mais ça s'était passé assez correctement. Le problème, c'est que le résultat ne correspondait pas du tout au calendrier de Bruxelles, de l'OTAN, de la France, etc. Bon, puisqu'il était arrivé en tête au premier tour, un candidat sorti de l'ombre, qui n'était pas connu, M. Georgescu, qui était arrivé avec 40% des voix en tête au premier tour. Et là, ça a créé une espèce de panique mémorable à l'intérieur de la communauté occidentale. Je simplifie, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Il ne fallait absolument pas que ce monsieur prenne la présidence de la République. Encore que la présidence de la République, dans la Constitution de Roumanie, n'a pas un rôle très très important, puisqu'en fait on a un gouvernement de type parlementaire et que c'est le gouvernement qui fait le gros de la politique. N'empêche que ce poste symbolique important tomba entre les mains de celui qu'on a présenté, alors d'abord comme d'extrême droite, puis en fait, en cherchant bien, on n'avait pas trop d'éléments de preuve, donc il était pro-russe, donc ça suffisait à faire l'équivalent, pour un journaliste, un pro-russe, c'est quelqu'un d'extrême droite. Alors, y compris, vous avez 150 millions de Russes qui sont d'extrême droite. Alors, on rit jusqu'à éclater de rire. Bon, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'élection... Alors, après que... Alors, quand même, il faut le rappeler, parce que après que l'élection ait été... Le premier tour ait été validé, je crois que c'était le surlendemain, le lundi ou le mardi suivant le dimanche du vote, la Cour constitutionnelle valide ce premier tour. Et trois jours plus tard... Pourquoi ? Alors pourquoi, madame ? Parce qu'elle s'est fait gronder. Elle s'est fait gronder par les autorités occidentales. Elle dit qu'elle annule les élections présidentielles. Bon. Alors effectivement, bon, mauvais genre. Et donc elle finit par dire quand même, ils se sont retombés sur la patte en disant « Non, non, mais vous inquiétez pas, électeurs démocrates, citoyens roumains, vous aurez votre élection présidentielle, mais celle-là ne nous convient pas. Donc on en fait une autre. » On en arrive à une espèce de fétichisme des élections parlementaires, c'est-à-dire c'est bien quand ça donne le résultat escompté par les gens qui nous encadrent, je veux dire l'OTAN, l'Union européenne et tout, et c'est pas bien quand ça donne pas le résultat espéré. Fut-il pro-russe, tout ce qu'on veut, voilà. C'était pas, M. Georgescu n'était pas au programme, point. Bon, alors, on fait une deuxième élection présidentielle, et donc le nouveau premier tour de cette nouvelle élection présidentielle a eu lieu ce dimanche. Et là, alors, surprise et embarras pour les commentateurs occidentaux, c'est à nouveau un candidat qui n'est pas celui qui était attendu, qui arrive très très largement en tête, qui retrouve en gros les scores de M. Georgescu à la première élection présidentielle, au-dessus de 40%, un résultat...
2003.
Voilà. Un résultat très très net et couvrant à peu près toutes les provinces de la République de Roumanie, couvrant aussi, et même avec encore une proportion plus importante, la diaspora roumaine dans les autres pays du monde, puisqu'ils avaient le droit de vote. Et donc, effectivement, là, à nouveau, on se retrouve devant un résultat qui n'était pas celui qui était souhaité par les puissants qui nous gouvernent, mais qui veulent donner l'apparence qu'on est un gouvernement national. Enfin, je parle comme si j'étais roumain. Il faut que... En tant que Roumain, chaque Roumain puisse dire « j'ai un gouvernement que j'ai choisi, qui s'occupe des intérêts de mon pays ». C'est ça ce qu'on attend d'un gouvernement. Ben non, c'est pas ça. Il faut qu'il s'occupe des intérêts de l'Union européenne, de l'OTAN, des États-Unis, etc., etc., etc. Bon. Alors quand je parle de la population roumaine de la diaspora, je profite pour donner un chiffre pour vous situer l'ampleur des enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 19 millions d'électeurs inscrits en Roumanie, qui est un pays assez vaste. Parce qu'il y en a 6 millions qui sont déjà partis depuis que la Roumanie est dans l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est bien de dire on ouvre nos portes, mais quand vous êtes dans un pays qui n'est pas très très attrayant et où les populations ne sont pas très heureuses, vous ouvrez la porte. Mais ils s'en vont, hein, ils s'en vont. Donc il est parti déjà 6 millions de Roumains de Roumanie, ouais. D'où la quantité importante de la diaspora qui vote.
C'est beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et donc, voilà, les 19 millions de restants ont voté. Alors, ils ont voté, le résultat est absolument clair, mais ils ont voté pour un personnage qui n'est pas M. Georgescu, qui a été interdit de se présenter. On ne sait pas, il n'y a pas de procès, on ne lui a pas trouvé, enfin, on lui a accusé de toute une série de mots, d'avoir utilisé TikTok, ce qui veut dire que si le fait d'utiliser TikTok, ça vous interdit de vous présenter à une élection, je ne sais pas qui va rester aux élections dans n'importe quel pays. Il ne restera presque plus personne. Hein. Bon, et après, si ce n'est pas TikTok, on dira que c'est Facebook, et puis on dira que c'est Instagram. Enfin, vous imaginez la comédie autour de ça. Alors, qui est intéressante à relever, parce que ça veut dire que ces médias d'information que je qualifie d'alternatifs, parce que c'est relativement facile à dire, encore que ça mériterait d'être plus approfondi, mais ces médias alternatifs sont aujourd'hui ceux qui font l'opinion. C'est-à-dire que la défiance vis-à-vis du système propagandiste occidental, que ce soit CNN, Al Jazeera, le New York Times, etc., la défiance est telle qu'effectivement, il y a dans les médias alternatifs un certain nombre de gens ou de groupes qui arrivent à faire un travail de journalisme, de vrai journalisme intéressant. C'est mélangé. Et c'est ça la difficulté du choix, c'est mélanger à des gens qui disent n'importe quoi parce que c'est assez facile de se mettre avec une caméra et de faire un YouTube quelconque. Il n'empêche que une bonne partie de l'évolution de l'opinion dans nos pays passe par ces médias alternatifs, ou moins par ceux qui font un travail sérieux. C'est intéressant à noter. Bon, alors, on arrive donc avec ce monsieur qui, alors on ne sait pas si demain il va être invalidé, quel prétexte on va trouver. Alors ça va être un peu plus délicat parce que monsieur Georgescu sortait de, j'allais dire, de son trou. Il n'était pas connu, il n'avait pas de carrière politique derrière lui. Il se trouve que monsieur Simion, qui donc a pris sa place à la tête de l'opposition roumaine, est député au Parlement européen où il siège dans un groupe d'extrême droite. Alors, vous voyez, le tapis rouge est déroulé pour la presse occidentale. Vous voyez, regardez qui vont voter. Le problème, c'est que derrière les 40%, il n'y a pas grand monde. Hein, et les autres candidats sont très, très loin. Ouais. Alors, ce monsieur Simion peut effectivement... Alors, lui, il a une habitude de la vie politique, puisque lui, il est élu au Parlement européen. Il est plus jeune que Georgescu. On peut effectivement se demander s'il sera si ferme et si clair sur ses positions que le prédécesseur, que M. Georgescu, qui lui avait sa propre ligne et ne devait rendre des comptes à personne. Je signale donc que M. Simion est dans le même groupe parlementaire que Mme Meloni, la première ministre, la présidente du Conseil italienne, qui, je le rappelle, est un des trois groupes d'extrême droite dans le Parlement européen. Parce que regardez, l'Europe va tellement bien qu'elle se paye le luxe au Parlement de Bruxelles d'avoir trois groupes d'extrême droite qui ne s'entendent pas. Alors à la limite, vous allez dire, c'est bon signe. S'ils ne s'entendent pas, au moins, ils ne feront pas de mal. Ils s'entretueront, c'est ce qu'on peut rêver. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens à l'extrême droite, il y a beaucoup d'ambitions individuelles, il y a des intérêts matériels, il y a des intérêts financiers, il y a qui reçoit de l'argent de ceux qui veulent que l'extrême droite avance au pouvoir, je pense aux États-Unis, entre autres. Bon, tout ça joue, mais voilà, ce monsieur-là est moins net sur ses positions et on ne peut pas... postuler, qu'est-ce qu'il va faire exactement. Ceci étant, il est clair que, vu ce qu'on sait de la qualité sociologique de son électorat, c'est un électorat populaire qui a voté pour lui. Et c'est bien ça la vraie question. La vraie question qui se pose en Roumanie, qui se pose aussi dans la République française. C'est-à-dire, le fait qu'une partie de l'électorat populaire vote à l'extrême droite est une question qui interroge tous les citoyens, parce que c'est un vote qui ne devrait pas aller à l'extrême droite, parce que l'extrême droite n'a rien à faire des votes, enfin, de la population qui vote pour elle. Bon. Mais la gauche française, et une partie de la gauche européenne est dans la même situation, a fait en sorte qu'effectivement, il ne soit laissé à une partie de l'électorat populaire que cette expression de mauvaise qualité qui ne correspond pas du tout à la défense de ses intérêts, mais nous en sommes là de nos difficultés internes. Bien, c'était une façon de mettre une couleur au débat. Mais il s'est passé énormément et beaucoup de choses cette semaine que celle-ci. Autour du 1er mai, pas grand-chose. Ça a été un 1er mai fêté partout, très modestement en France au total. Là aussi, sur fond de division de la gauche ou de fatigue des syndicats, on le sait. Et je ne m'attarderai pas là-dessus. Par contre, la donnée essentielle a été... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un retournement de veste ? Monsieur Trump, tout d'un coup, a dit qu'il ne s'intéressait plus à l'Ukraine. Alors, pourquoi il ne s'intéresse plus à l'Ukraine ? Parce que l'Ukraine ne lui obéit pas. Ah ! Alors ça, on s'en était un peu rendu compte dans l'entretien à la Maison-Blanche. On en a eu confirmation indirectement par le fameux entretien à Saint-Pierre-de-Rome, ou entretien de 15 minutes, je souligne, oui. Où apparemment personne, aucun des deux n'a convaincu l'autre. Ils se sont écoutés, je ne sais pas trop ce qu'ils se sont dit, ça n'a pas d'importance. Mais M. Trump a tiré de ces deux réunions l'enseignement que M. Zelensky, décidément, ne lui obéirait pas. Alors ça, on avait compris, et effectivement, M. Zelensky a continué à faire comme s'il était maître du jeu. Alors, il est maître du jeu d'une certaine façon.
Il est soutenu par l'Europe, par l'OTAN.
Voilà, il est soutenu par l'OTAN, et il est soutenu par les principaux pays européens, et surtout les plus va-t-en-guerre, j'ai cité la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. C'est surtout là que ça se passe. Et l'Allemagne va encore accentuer sa position donc, du côté de l'extrême droite avec son nouveau Premier ministre qui devrait être à son poste dans les heures qui viennent, M. Merz. Alors je rappelle à ce propos que les discours tenus par M. Merz, le nouveau chancelier allemand, avant qu'il prenne effectivement le poste, sont des discours qui sont en tout point analogues aux discours hitlériens d'avant 1941. Quand on dit qu'il faut que l'Allemagne redevienne grande, Alors, quand l'Allemagne veut redevenir grande, ça veut dire qu'elle se sent trop petite. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est trop petite dans notre esprit, trop petite dans ses frontières. Ça veut dire qu'elle veut élargir ses frontières. Et vous voyez de quel côté. Alors, de temps en temps, elle va à l'ouest, on a su ça, guerre de 14, guerre de 70, etc. Mais souvent, c'est plutôt de l'autre côté, hein, du côté de l'Ukraine et de l'URSS ou de la Russie. Bon. Donc, ce discours allemand est extrêmement inquiétant et M. Merz le porte. Donc, la situation est la suivante. M. Trump dit « J'avais dit que j'allais amener la paix ». Il avait même dit à un moment donné dans la campagne « En 24 heures en Ukraine ». Bon, ben voilà, cher monsieur, vous avez parlé pour ne rien dire, mais on a compris. Vous êtes un spécialiste de l'annonce publicitaire. C'est la grande promotion, la grande braderie, etc. Allez, je brade la guerre d'Ukraine dans 24 heures, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que je dise quelque chose et le monde s'aligne sur ma parole. C'est merveilleux. C'est bien. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors lui, il vit là-dedans, dans une espèce de rêve. Je pense que son entourage, tout le monde ne rêve pas de la même façon. Ça, l'histoire le dira bientôt, puisqu'on voit des changements dans les équipes, on voit des discours assez différents entre le président et son vice-président, par exemple, des tas de choses comme ça. Mais du coup, il abandonne. Alors il abandonne et il trouve un motif pour abandonner qui est le fameux projet d'accord sur les terres rares. Alors, première donnée, cet accord n'est pas en circulation. Il a été signé par une ministre du gouvernement ukrainien et par le secrétaire d'État au commerce américain. Donc M. Trump dit « Moi, ça ne me concerne pas, c'est un arrangement, c'est des histoires d'intendance, de financement, etc. Moi, je ne trempe pas là-dedans. Hein. » Il n'empêche que ça donne un peu les conditions dans lesquelles va se poursuivre l'aventure ukrainienne, si j'ose dire. Ça dit quoi ? Ça veut dire qu'en gros, non seulement les terres rares, mais les moins rares, le pétrole, le gaz, le minerai de fer, le charbon, tout ce qui est dans le sous-sol ukrainien est sous tutelle d'un organisme qui est une espèce de banque de développement, pour appeler ça comme ça, où les États-Unis ont 50% du capital et l'Ukraine 50%. Alors, l'Ukraine, elle ne met pas d'argent puisqu'elle n'en a pas, ou l'argent qu'elle a, il vient déjà des États-Unis, donc ça ne peut pas être ça. Donc, l'Ukraine dit « notre territoire est à vous ». Monsieur mon partenaire, vous pouvez en faire ce que vous voulez, gratter, creuser, exploiter, transformer, faire fondre, etc. Vous êtes chez vous. C'est une forme de colonisation tout à fait limpide, en échange de quoi les États-Unis, j'ai déjà mis 350 milliards de dollars, je pourrais peut-être en mettre plus, mais voilà, mon titre de propriété, c'est ça. Donc je suis propriétaire des ressources, de la totalité des ressources minière au moins, du territoire ukrainien. Du territoire ukrainien. Alors là, on met une toute petite parenthèse et un point d'interrogation, même un énorme point d'interrogation. C'est quoi le territoire ukrainien dans cet accord ? Alors, je ne crois pas, et à aucun moment dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai jamais vu de carte correspondant à cet accord. Parce qu'il faudrait être beaucoup plus précis. Ça va jusqu'où, le territoire ukrainien ? Alors, on a parlé ici et là de la Crimée, on a parlé du Donbass, etc. Là, flou artistique, c'est le territoire ukrainien qui est entre les mains donc, de la banque américaine. Deuxième aspect, il est annoncé que cet accord est un espèce d'accord cadre qui comporte en plus des pièces annexes qui sont restées secrètes jusqu'à présent. Alors je dis jusqu'à présent, on est aujourd'hui donc le 5, et il est dit que cet accord passera devant le Parlement ukrainien le 8, donc dans deux jours. Et le Parlement ukrainien, alors il y a déjà des voix qui s'expriment en disant « mais c'est bien joli, mais les pièces secrètes, nous on aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'on nous dit de voter sur un cadre général qui est l'ensemble de pétitions de principe, mais plus précisément, c'est quoi ?» Et on leur fait savoir que probablement ils n'auront pas droit. Ce qui était secret entre les deux gouvernements va rester secret, y compris pour les parlementaires. Donc les parlementaires sont pris pour des imbéciles. Hein. Et il faut aussi voir pourquoi M. Zelensky ne peut pas signer. Parce que M. Zelensky, il n'est plus président. Donc sa signature ne vaut rien. Donc, a priori, effectivement, il vaut mieux que ce soit le Parlement qui représente encore quelque chose. Il n'a pas été dissous, il est là. Bon, on dit c'est lui qui signe. Mais si les parlementaires se mettent à dire « mais moi, je ne veux pas signer puisque je ne sais pas les clauses cachées, je veux connaître aussi », on ne sait pas trop ce qui va se passer jeudi au Parlement ukrainien. Voilà les incertitudes. Ceci étant, le cadre est clair. L'Ukraine, enfin, M. Zelensky et sa ministre ont remis la propriété du sous-sol ukrainien aux États-Unis d'Amérique. Point. Alors à partir de ce moment-là, M. Trump peut dire « Moi, je m'occupe d'autre chose. Finalement, j'ai fait ma prise de guerre. Et les parades, c'est tout un territoire avec tout ce qu'il y a dedans. Donc je n'ai pas perdu mon temps. Les 350 milliards sont hyper valorisés. C'est un coût capitaliste d'une grande taille. Parce que pour ce prix-là, s'acheter un pays qui est plus grand que la France, qui a des quantités de ressources souterraines, etc., pas que les terres rares, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, justement, d'où l'appellation fausse qui est portée sur là. C'est un coût d'éclat impérialiste, colonialiste, comme rarement. Parce que, je dis comme rarement, parce que dans les cas de colonisation que nous avons vécu et que la France a mené ici et là, on ne faisait pas les comptes tout de suite au jour le jour. On ne disait pas on a mis tant d'argent, ça nous a rapporté tant. Là, on a la somme pour 350 milliards de dollars, c'est-à-dire très très peu. C'est à peine, c'est même à peu près en gros un tiers du budget militaire annuel des États-Unis. C'est presque rien. Les États-Unis viennent d'acheter un pays. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, c'est le colonialisme poussé à son extrême pointe avec un rendement qu'on n'a jamais vu dans les autres types de colonisation. Ben, ça coûtait plus cher parce que les Américains ont vendu des armements, donc ils ont enrichi Lockheed, Raytheon, etc. N'ont pratiquement pas perdu de soldats, au moins ceux qui sont morts, on ne les a pas recensés, on a été discret sur eux. Donc c'est une colonisation à coût quasiment nul, quasiment nul. On achète un pays pour rien du tout. Alors on l'achète parce qu'il y a des gens de ce pays-là qui ont bien voulu le vendre, et ça donne totalement la place, le rôle historique catastrophique pour son propre pays de M. Zelensky et de ses amis. Alors, ces amis, qui sont-ils? Et c'est la dernière dimension du problème, c'est que M. Zelensky n'est pas libre de ses mouvements. N'est pas libre de ses mouvements, puisqu'en gros, ce qui reste de son armée est entre les mains des groupes néo-nazis, et que, très probablement, s'il ne faisait pas ce que les groupes néo-nazis attendent de lui, il n'aurait qu'une chose à faire, c'est de prendre, avant de se faire couper la tête, de prendre un avion pour une destination de son choix, puisqu'il a acheté des beaux équipements, des châteaux un peu partout dans le monde, y compris en France. Bon. C'est ça l'équation ukrainienne, c'est comme ça qu'on ne nous la présente pas, mais elle est là. C'est-à-dire un pays qui a été vendu pour pas cher aux colonisateurs états-uniens, et ça renvoie à la question de la position russe. C'est-à-dire qu'à la lecture de cet accord, si jamais il s'applique, parce que la dernière question que ça pose, cet accord ne s'applique que s'il y a un gouvernement ukrainien. Et c'est là qu'on en arrive à la question de la guerre en Ukraine, qui arrive à sa question de fond. C'est-à-dire que dans le cas d'un conflit armé, il y a deux façons de sortir d'un conflit armé. C'est exactement pareil que la guerre de 14 ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est exactement pareil que comme l'issue de la guerre de Russie. Soit il y a un accord d'armistice. Et donc les deux belligérants, faute d'arriver à ce qu'il y en ait un qui écrase l'autre et qu'il y ait des gains substantiels, territoriaux, etc., considèrent qu'ils arrêtent de se battre parce qu'ils d'abord ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus, etc., et qu'on se reverra la prochaine fois. Alors la prochaine fois, ça peut être dans 10 ans, dans 50 ans, on ne sait pas, mais ce n'est qu'un armistice. Ça amène à la situation coréenne avec une zone démilitarisée, une frontière qui a été tracée un beau jour de 1953, et chacun est de son côté de la frontière, et il y a deux gouvernements qui fonctionnent en attendant qu'on règle la question de la paix en Corée, qui n'a jamais été réglée. Bon. Ça s'appelle un armistice. Alors soit en Ukraine on finit par un armistice, alors là il y a quantité de dessins qui sortent sur les écrans avec la frontière ici, le Dniep, machin, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Soit on arrive à un traité de paix qui a le sens de clarifier la situation et non pas de la rendre éternelle, mais au moins pour une période de temps qui peut être un demi-siècle, un siècle, dire ben voilà, ça s'est arrangé comme ça, et à ce moment-là, on voit. Alors, c'est ça qui est posé aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce que le régime ukrainien va aller à la capitulation? Et j'insiste sur le fait qu'il ne reste à la Russie que cette position-là possible. C'est-à-dire qu'avec un personnage qui est impossible à la négociation, qui refuse tout, qui est encadré par des néo-nazis, qui ment, qui est corrompu, qui est cocaïnomane, etc., etc., la seule issue possible pour la Russie, si elle ne veut pas avoir les États-Unis qui commandent juste à sa frontière, avec le nombre de soldats qu'elle voudrait mettre, c'est la capitulation. C'est-à-dire que ça donne le cadre idéologique et le cadre conceptuel de la suite du conflit en Ukraine. Ça ne peut finir que par une capitulation. Autrement, les combats s'arrêteront peut-être, et puis ils reprendront dans 6 mois, ils reprendront dans 1 an. La situation ne sera pas réglée du tout. Donc nous sommes face à cette situation, et je pense que la Russie en est tout à fait consciente, c'est-à-dire que maintenant, la seule solution, c'est qu'effectivement qu'elle arrache la capitulation de l'Ukraine. Alors, c'est peut-être pas si difficile que ça, car on sait qu'une bonne partie de l'armée ukrainienne est en débandade, ce qu'il en restait, qu'au rythme de pertes en hommes comme ils ont eu dans la zone de Koursk, c'est-à-dire 70 000 hommes perdus, les rythmes de perte tels qu'on peut les voir, au moins dans les communiqués du ministère russe de la Défense, c'est plusieurs centaines d'hommes tous les jours. Alors multiplier 200 personnes par 365 jours, etc., il y a des moments où il n'y a plus personne. Et il faut savoir qu'en plus, on est en train de ramasser des handicapés, des aveugles et tout, de force, on les attrape dans la rue pour les mettre avec un uniforme dans des tranchées. Donc c'est une armée en débandade où tous les gens qui ont pu partir sont partis. Alors au passage, c'est intéressant de dire que dans ces conditions-là, ce qui reste d'Ukrainiens, c'est ceux qui n'ont pas pu fuir, c'est-à-dire c'est les petites couches de la population avec de petits moyens qui n'ont pas eu les moyens d'acheter un douanier, parce que alors les douaniers et la gendarmerie de M. Zelensky sont éminemment corruptibles comme le reste de l'équipe Zelensky, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive avec suffisamment de milliers de dollars dans ses poches à la frontière entre la Moldavie ou la Roumanie de l'Ukraine peut s'en aller, bon, alors que celui qui n'a rien, ou celui qui n'a qu'un tout petit salaire pour vivre, une toute petite pension, ne pourra pas partir. Il ne reste que ça. C'est ça la situation de l'Ukraine, une situation catastrophique, puisque là aussi, j'en parlais pour la Roumanie, mais on en est dans des estimations variables, mais ce pays de 52 millions d'habitants en 1989 doit avoir une population qui tourne aujourd'hui entre 20 et 25 millions d'habitants. Tous ceux qui ont pu partir et ceux qui avaient les moyens financiers, politiques de partir sont partis.
Ouais.
Et ils attendent, ils comptent. Alors, ils sont pro-ukrainiens. Roselyne, un petit mot ?
Oui, non, c'est juste que je me pose la question. Je suis désolée parce que pour moi, je trouve ça très complexe. Donc, le 9, il va y avoir un vote des parlementaires, si j'ai bien compris.
Oui, le 8.
Le 8, pardon. Et à l'issue, qu'est-ce qui va se passer pour la France, l'Allemagne, enfin les trois battants guerre dont tu parlais tout à l'heure? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça? Parce que est-ce qu'ils vont accepter que Trump ait racheté l'Ukraine sans en bénéficier?
Il se trouve un peu comme les cocus de l'affaire. Je veux dire. Alors on sait, ça a été dit, mais là aussi tout est dans le demi-secret, dans le flou de toutes ces affaires-là. On sait qu'il y avait un accord signé entre le Premier ministre britannique et Zelensky pour lui vendre la même chose. Trump a dû taper sur la table en disant Zelensky, non, ça c'est pour moi, c'est pas pour les Anglais, c'est moi le patron, c'est moi le plus fort, etc. Et l'autre a dû prendre peur, et donc il a dit, je te donne à toi. Alors, il l'a promis à tout le monde, mais manifestement, la France, la Grande-Bretagne sont les dindons de cette affaire-là.
Il reste la partie secrète qu'on ne connaît pas.
Voilà, et il reste là, ce qui n'est pas rien. C'est quoi la partie secrète, ouais.
Peut-être c'est des bases autour de l'Ukraine.
C'est pas impossible.
C'est pas impossible. À l'intérieur.
Voilà. C'est pas impossible. Alors,
pour protéger les terres rares et les.
Mais oui. Alors, ce qu'on sait, c'est que toutes les recettes, quand une compagnie des États-Unis viendra exploiter une nouvelle mine de ceci ou de cela, elle versera quand même un certain prix au gouvernement ukrainien. Mais ce prix se fera dans le cadre du rapport de force et du rapport de non-force, de faiblesse de l'Ukraine. C'est-à-dire que la boîte américaine, elle dira 7 ans et puis c'est comme ça. Et puis si t'es pas content...
Elle a mis beaucoup d'argent aussi.
C'est comme ça. Et si t'es pas content, ça va mal se terminer. Donc en fait, les prix seront probablement bas et ça permettra un pillage en bonne et due forme des richesses ukrainiennes. Bon, c'est ça. La colonisation, c'est ça. Ça veut dire s'approprier pour très peu les ressources nationales et les vendre sur le marché international. Bon. Tout ça dans le cadre, j'insiste aussi, dernier élément, c'est que la discipline ukrainienne, s'il doit en rester une après, c'est-à-dire pour faire respecter cet accord et que les entreprises minières ou de forage des États-Unis qui vont venir sur place ne soient pas victimes de mouvements de mécontentement de la population, il y aura des néo-nazis pour protéger les exploitations américaines. bien entendu. Ils sont là, ils sont équipés, on les paye ce qu'il faut, ou ils se payent eux-mêmes, ils négocient pas les prix. Bon, voilà, voilà le genre de pays, voilà le pays que nous, occidentaux, nous, complices, sommes en train de fabriquer. Alors on nous dit, ah oui, c'est en Europe, l'Ukraine, regardez, mais alors c'est
joli... pas propre.
C'est le... Exactement, tu résumes très très bien, Habib. Voilà. Bon, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer, et ça amène alors à différentes réactions. Alors, M. Zelensky va jusqu'au bout de son personnage effroyable et inquiétant, puisqu'il a même annoncé que l'Ukraine allait attaquer les manifestations de commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui se tiendront le 9 mai à Moscou. Alors, il y a une réelle inquiétude là-dessus, puisqu'en fait, il y aura quand même un certain nombre de dirigeants importants du monde qui seront à cet endroit-là. Et si jamais, alors on peut envisager le pire, puisqu'on a affaire à des gens qui sont sans contrôle, et à la limite, s'ils sont contrôlés, c'est par des gens pas raisonnables. Ce qui se passerait si, je mets la chose au pire, j'y crois pas, parce que, à la limite, je veux pas y croire. Imaginons qu'un drone bien, bien ciblé, un drone... très très meurtriers viennent tuer le président chinois sur la tribune d'honneur de la parade, là, je ne sais pas du tout ce qui se passe au niveau mondial. Et donc, on a affaire à quelqu'un, ce monsieur Zelensky et son équipe, extrêmement inquiétant, prêt à n'importe quoi. Alors, qui va le freiner? Alors, j'ai essayé de voir quelles étaient les réactions de la Maison-Blanche à cette annonce de monsieur Zelensky. Pour l'instant... sauf erreur de ma part, je ne sais pas si vous en avez vu de votre côté, je n'ai rien vu. C'est-à-dire que M. Trump doit se dire, qu'est-ce que je vais lui faire? Comment dans les coulisses je vais lui faire comprendre qu'il vaut peut-être mieux pas? On ne sait pas. Ce monsieur est-il vraiment contrôlable? Je ne sais pas. Sous l'emprise de quelle drogue, de quelle idéologie il fonctionne vraiment? Et peut-être il est prêt à faire une bêtise monstrueuse. Alors ça... Je ne le postule pas, mais c'est pas à exclure dans la mesure où on a un personnage qui ne devrait pas être au poste où il est, un poste qu'il ne mérite pas puisqu'il n'est même plus président de la République depuis presque un an maintenant. Mais il a été mis là, il a été porté au nu par, là encore, je reviens à mon propos initial, par une opinion occidentale et à ceux qui la fabriquent, il a été porté au nu, on l'a porté. On a vu un Parlement français à 100% debout pour acclamer M. Zelensky. On a vu un Congrès des États-Unis à 100% debout pour acclamer M. Zelensky. On a vu même la papauté organiser la comédie de la semaine dernière, parce qu'elle ne savait pas. Alors, ils n'ont pas cautionné, mais en fait, ils ont laissé faire. C'est-à-dire que M. Zelensky et M. Trump ne se sont pas assis au milieu de la basilique Saint-Pierre parce qu'ils ont décidé de le faire tout seuls. Ça veut dire que les services secrets, enfin la diplomatie vaticane, ça existe, la diplomatie vaticane, a fait un compromis en disant bon, on va les laisser faire leur petite comédie, mais de ce fait, elle s'est un peu montrée dépendante de la situation.
Alors, elle c'est l'équivalent de Netanyahou. Hein.
Pareil.
C'est l'équivalent, voilà. C'est sûr que c'est des criminels.
Voilà.
C'est des...
Alors, et ce qui a démontré qu'effectivement il y avait une complicité de fait, alors dans un moment de faiblesse, quand il n'y a pas de pape en exercice, chacun fait un peu ce qu'il a envie de faire. Et les différents courants d'opinion qui traversent le conclave et les cardinaux s'expriment librement. Bon, ce qui est clair, c'est qu'on a laissé faire la comédie de la petite réunion de 15 minutes dans Saint-Pierre de Rome, et que dans la foulée, vous l'avez sans doute tous vu, Monsieur Trump s'est fait photographier avec une tiare sur la tête, une tiare papale.
Bon. Oui. C'est vrai.
Alors, donc, je veux dire, en fait, c'est chez moi.
Je pensais que c'était l'intelligence artificielle.
Oui, celui qui a fabriqué l'image, bien sûr, a pris une photo d'un pape et a changé le visage. Ça, bien sûr. Mais, en fait, Trump, il a donné son accord pour qu'il y ait sa tête là-dessus. Et ça veut dire qu'au fond, dans sa tête... ce qui est inquiétant sur l'état de ces deux hémisphères cérébraux, dans sa tête, il se considère comme une espèce de pape ou quelqu'un à qui l'Église catholique, 1,5 milliard de pratiquants, c'est rien du tout, et j'en fais ce que j'en veux. C'est-à-dire, j'annonce avec cette photo que c'est moi qui vais décider de qui sera le nouveau pape. Alors, je voulais dire, il n'est pas le seul, puisqu'on chuchote, même chuchote assez fort que Macron aurait la même ambition, et son épouse aussi. Donc, tout le monde veut choisir le pape. Alors, à la limite, j'allais dire, j'espère que les conditions matérielles et techniques du conclave, c'est-à-dire ces messieurs s'enferment et ne sortent plus avant d'avoir élu le nouveau pape, éviteront ce genre d'interférence. Et puis, au fond, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ces cardinaux viennent, ils ont un passé, ils ne sont pas tout jeunes, ils viennent de différents pays du monde en particulier. Alors, on en voit moins, il n'y a pas beaucoup de grands cardinaux français ou européens, mais aujourd'hui, les cardinaux qui comptent et qui ont beaucoup de fidèles derrière eux, ce qui n'est plus tellement le cas en Europe, c'est en Amérique latine et en Afrique.
Ouais.
Et c'est probablement là que ça va se jouer. Et c'est ça qui inquiète certainement l'Occident, qui inquiète la France, qui inquiète les États-Unis. Encore que, alors moi je me réfère là à des analystes de l'Église catholique telle qu'elle fonctionne, ce n'est pas mon propos principal, mais il semble bien que ces cardinaux soient plutôt de type conservateur, mais il n'empêche qu'un cardinal qui arrive au cours d'une carrière, c'est long, il faut un certain âge, il faut avoir vécu toute une série de situations intermédiaires, est quand même porteur, j'allais dire, ce n'est pas le terme qu'on utilise dans l'Église, de son électorat, de ses fidèles. Et donc, on peut attendre d'un cardinal argentin, on en a eu un, ou d'un cardinal qui serait sud-africain, qui soit aussi l'expression de préoccupation de son propre peuple, même si l'Église n'est pas majoritaire, ce qui est le cas en Argentine, où elle était majoritaire.
Il y en a combien ? 1133, je crois.
150, non, non.
Non, 133, oui.
Voilà, mais ça fait 150 histoires différentes, et surtout maintenant venant de continents très très différents. C'est-à-dire qu'on est en train... Le cas de François était le premier cas, de sortir des papes européens. Les papes européens, c'était en plus facile à manipuler. Je pense en particulier à l'extraordinaire Jean-Paul II, qui était un pape manipulé par les services secrets américains, qui a réussi à faire exploser la Pologne, etc. On se souvient de tout ça. Le pape polonais, il a fait le rôle historique des Polonais, diviseur au nom du catholicisme, du monde slave, pour s'affronter aux orthodoxes. On connaît ça, et c'est encore assez vivant aujourd'hui. Mais là, on change de dimension. L'Église catholique est désormais une universel, ce qui est exactement le nom. C'est ça que ça veut dire, catholique en grec. Ça veut dire universel. Bon, c'est-à-dire, elle couvre pas 8 milliards de personnes, mais elle a des représentants partout avec leur histoire nationale, l'histoire de leur église, leurs fidèles, etc. Bon. On verra. C'est pas central, mais on verra et c'est intéressant à suivre. Donc, le point important, c'est de savoir que le 9 mai aura lieu cette cérémonie. Qui seront présents ? Donc, c'est certain, le président chinois, le président brésilien, le président vénézuélien. Alors, vous voyez, imaginez dans la tête l'imagination délirante de Zelensky, un tableau de chasse où il détruirait la tribune de Moscou ce jour-là.
C'est la Troisième Guerre mondiale.
Ah oui, voilà, on n'imagine pas. Alors, je fais confiance quand même à l'armée russe, à ses systèmes de défense. Mais il faut peut-être un peu plus que ça. Le rôle de Trump peut être un rôle modérateur. Aura-t-il lieu ? Je ne sais pas. Je pense que... Alors, la réaction extrême, je la cite parce qu'elle a eu lieu, c'est celle de M. Medvedev. Monsieur Medvedev, ancien président, donc vous le savez, pendant un mandat de la Fédération de Russie, oui. Et aujourd'hui secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité russe, a déclaré « Si ça se passe le 9 à Moscou, le lendemain matin, Kiev sera rasé. Bon. » C'est parfaitement clair. Alors, c'est pas forcément ce que déciderait Poutine, mais c'est certainement ce qui est à l'étude à l'état-major russe. Qui en plus en a les capacités, parce qu'on imagine avec les missiles hypersoniques de la dernière génération, effectivement, s'il était décidé de raser Kiev, ce serait militairement possible. Ça serait, alors j'insiste quand même, en contradiction avec la position ferme de la direction russe et de son état-major de ne pas attaquer les civils dans toute l'opération militaire spéciale. C'est-à-dire qu'ils ont pris soin, ce qui ne veut pas dire que ça réussit à 100%, de ne pas s'en prendre à des objectifs civils, exactement à l'inverse de ce que fait l'Ukraine. Bon. S'en prendre à Kiev, raser Kiev, ça veut dire effectivement tuer 1 million de personnes.
Bon. Ah ouais,
Donc on s'embarque. Enfin, alors là, on est dans des espèces de délire. C'est la crispation de situations extrêmement tendues où effectivement on sent que le monde bascule, où les propos sont excessifs par rapport à la réalité du terrain. Mais un propos excessif en engendre un autre. C'est ça que je veux dire. Donc quand Zelensky dit je vais taper sur Moscou le 9, Medvedev répond, demain, il n'y aura plus Kiev. Alors, réfléchis. Mais on est dans l'excès de toutes parts.
Oui, de toutes parts.
Et jusqu'à présent, on va dire que, comme d'habitude, nous sommes poutiniens à Radio Galère ou à Comaguerre. On va dire que le personnage qui temporise, qui évite de passer à cette dimension-là, c'est toujours le président russe. Et il l'a démontré tout au long de l'opération. Bien. Une autre négociation. Alors, la négociation sur le cessez-le-feu, l'arrêt de la guerre, il n'y en a plus. On sait que M. Witkoff, donc le banquier, le milliardaire, porte-nouvelle de M. Trump, est allé rencontrer une nouvelle fois le président Poutine. Ils se sont parlé. Il est très probable, comme il n'y a pas eu de commentaire ou pratiquement pas, que la Russie a réitéré sa position en disant « Nous voulons une issue du conflit qui mette un terme aux conditions et aux raisons du conflit, donc élimination du nazisme, etc. » Bon, ça, c'est tout, et ça n'a pas bougé d'un pouce. Et donc, M. Witkoff a dû aller voir M. Trump et dire ben, « Écoute, leur position n'a pas changé. » D'où la réaction puérile de M. Trump. Ah, s'il ne change pas de position, alors moi, je ne peux plus rien annoncer en matière de fin de la guerre. Ben non, ben tais-toi. C'est tout ce qui lui reste à faire. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, bon, maintenant, j'ai les terres rares, le reste, on verra bien. Ouais. Sur un autre sujet où des négociations sont en cours, c'est la négociation sur l'Iran. On y revient. On y revient avec, là encore, des fluctuations, puisque là encore, M. Trump, qui a dit que si jamais on n'y arrivait pas, il allait menacer la destruction de l'Iran, en gros, pour faire simple. Et il y a eu une suspension des négociations qui apparemment était suspendue deux jours, puis maintenant, il semble reprendre. Hein. Donc on a annoncé simplement une délocalisation, ça serait passé de Oman à Rome. Et puis, finalement, on a appris que ça reprenait. Je n'ai pas su, d'ailleurs, si ça reprenait à Oman ou à Rome. Ça continue à Oman. Bon. Mais il y a des espèces de flottements qui sont à l'image du flottement de Trump, qui, après qu'il annonce des choses extraordinaires et des décisions folles...
Sous la pression de Netanyahou.
Certainement. Certainement. Hein, parce que, effectivement, pour Netanyahou, c'est un cauchemar permanent qui n'en finit pas, alors qui, pour l'instant, ne prend pas de forme concrète. Puisque, je vais signaler, ça a été amusant, il y a donc M. Escobar, qui est un chroniqueur international qui est bien connu, est allé en Iran et il a essayé de faire parler un général iranien en disant « qu'est-ce que vous allez faire ?» etc. Et le général iranien lui a dit « d'abord, c'est pas moi le chef d'état-major, c'est pas moi le chef de l'État iranien, mais nous, de toute façon, on n'a pas décidé de se laisser faire, on se défendra, hein, et on se défendra sur notre ligne, on n'a pas l'arme nucléaire, mais on a de quoi se défendre. » Et plus de quoi. Alors, ce qui amène d'ailleurs les négociateurs américains disant non seulement renoncer à la bombe atomique, mais renoncer même à une armée. Comme ça, on dormirait tranquille. Ouais. Mais bien sûr, pourquoi pas, hein, pourquoi. Alors, c'est les bourgeois de Calais. Hein. Allez, donnez tout et puis laissez-nous tranquille. Ça, c'est la position de rêve des sionistes. Netanyahou. Alors Netanyahou, effectivement, il sent bien que les affaires sont difficiles. Il sent bien que malgré tout, il est impopulaire. Il commence à devenir impopulaire dans son propre pays. Alors les manifestations sont encore pas directement orientées contre lui, mais ça consiste à dire, comme il l'a dit lui-même, finalement la question des otages, c'est secondaire. Ah bon ? Ah, c'est mais ça fait un an et demi que vous nous dites que c'est les otages la question centrale. C'est secondaire parce que finalement, ce qu'on veut, c'est que l'Iran disparaisse et que les Palestiniens s'en aillent. Voilà. Ouais. Ça, parce que ça, c'est notre vérité fondamentale de sionistes et c'est ça la vraie vérité. Les otages, à la limite, bon, on s'en fiche. Alors, je pense que ça a été reçu déjà dans les oreilles des familles des otages. Ah, ça fait un an et demi qu'il nous dit qu'il va sauver les otages et en fait, il s'en fiche complètement. Oui, ils s'en fichent complètement. Ils s'en fait. Hein. Donc voilà, ils sont sacrifiés, on n'en parle plus. Alors vous allez dire, quelques centaines d'otages par rapport à 50 ou 60 000 Palestiniens, c'est négligeable dans cette guerre. Bon, voilà. Mais ça, voilà. Alors M. Netanyahou est en train d'affaiblir sa position parce que militairement, sa position n'est pas aussi forte. D'une part, effectivement, à Gaza, il ne fait pas ce qu'il veut. on a encore eu écho ces dernières heures d'affrontements entre les brigades Al-Qassad et l'armée israélienne directement. Non. Alors, les brigades, il y a quasiment eu un combat de rue au pistolet mitrailleur. Donc ça veut dire que ce n'est pas si simple que ça. Quand M. Netanyahou dit on va tout envahir, on va occuper Gaza complètement et définitivement, c'est plutôt une affaire pas classée du tout, du tout. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Ben, il se trouve que les Yéménites, toujours eux, alors les Yéménites, je précise parce que c'est très très embêtant, on a affaire au Yémen à un gouvernement de facto, le gouvernement du Nord, ce qu'on appelait le Nord-Yémen du temps où il y avait un Sud-Yémen et un Nord-Yémen, qui ne reconnaît pas l'autorité d'un président de la République, qui ne siège même plus à Aden, mais qui est en Arabie saoudite. Et c'est d'ailleurs à l'instigation de ce monsieur que l'Arabie saoudite, depuis des années, fait la guerre aux Houthis, donc aux indépendantistes ou aux irrédentistes yéménites, et qu'elle n'y arrive pas. C'est ça aussi la donnée, c'est qu'effectivement l'Arabie saoudite a été envoyée par l'Occident pour démolir les Houthis et n'est pas parvenue malgré alors. Les capacités militaires de l'Arabie saoudite ne sont peut-être pas très très importantes. Le matériel militaire des États-Unis, de l'Arabie saoudite est considérable, puisqu'en fait, c'est par dizaines de milliards à jet continu que les États-Unis envoient du matériel militaire en Arabie saoudite. Mais apparemment, les Saoudiens n'en font pas le meilleur usage. Ils ne sont pas des combattants très très experts. On dit qu'ils sont obligés d'embaucher des pilotes pakistanais, des ci, des ça, et tout. Donc, le bilan, je le fais parce qu'il faut le rappeler. Donc, le gouvernement de Sanaa est un gouvernement de facto et le Yémen n'existe pas du point de vue de la diplomatie. Alors, je vois par exemple la diplomatie russe qui est très, très à cheval sur les questions de principe. Dit, mais enfin, il y a quand même un gouvernement qui ne gouverne rien du tout, mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, à Sanaa, il y a le gouvernement du Yémen. Donc, ils sont obligés de jouer un jeu un peu subtil pour dire la réalité du pouvoir, elle est à Sanaa, mais l'officialité du pouvoir n'y est pas. Bon. Ce que font de toute façon les Houthis, c'est qu'ils continuent effectivement à intervenir pour la défense des Palestiniens. Et ils l'ont fait ces derniers jours en attaquant directement l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv.
C'est exact.
Alors l'aéroport Ben Gurion, Israël c'est tout petit, c'est le seul aéroport ouvert aux lignes internationales. Ils ont, alors je précise parce que j'ai vu la carte qui a été mise en circulation par les Houthis, ils ont envoyé la carte en disant voilà l'aéroport, voilà l'aérogare et voilà où nous avons visé.
Ouais.
Et nous avons visé à 300 mètres de l'aérogare volontairement et le plan circule. Ça veut dire que là aussi, tactique à la russe, c'est-à-dire on montre qu'on est capable de faire quelque chose, mais on ne tire pas sur une installation civile. On ne va pas tuer des milliers de voyageurs qui sont dans cet aérogare. Et ils ont ajouté, par contre, nous invitons l'ensemble des compagnies aériennes internationales à ne plus venir.
Oui.
Et quand ils font ça, en fait, ils étranglent Israël, parce que sans cet aéroport...
C'est un manque terrible pour l'économie israélienne.
Tout à fait. Donc les Houthis avancent, et malgré tout ce qui leur a été fait, parce que là, alors, à Trump aussi, qui est tout prêt à verser chaque fois une larme, oh, mon Dieu, il y a des morts. Enfin, j'allais dire, c'est ma concierge, j'ai rien contre les concierges. Mon Dieu, c'est triste, la guerre, il y a des morts. Ça, c'est un peu ça, Trump. Alors, il dit ça, et puis de l'autre main, il lance des milliards de dollars, il lance ses porte-avions, etc., pour faire la guerre. Mais il a toujours cette espèce... Son premier propos, c'est toujours de dire « Ah, mon Dieu, c'est dommage, il y a des morts. » Oui, oui, bien sûr, M. Trump. Mais
c'est
arrêtez.
Le même principe qu'en Israël, quand ils bombardaient Gaza.
Oui, exactement.
C'est le même principe.
Exactement. Donc il est toujours sur ce double discours, qui est un discours, à la limite, qui... Enfin, pose des questions sur sa capacité intellectuelle réelle, c'est-à-dire dire comme ça devant la télévision, devant les écrans, « Ah, c'est dommage, il y a des morts », et puis en fait continuer à financer, fabriquer, etc., tuer, etc., c'est quand même un niveau d'incohérence qu'on espérerait ne pas atteindre un poste si élevé. Mais on est en pleine incohérence, lui est en pleine incohérence, et avec lui la totalité de la société états-unienne. Bien entendu, vous l'avez compris. Et donc... Pour ce qui est du conflit, effectivement, les Houthis ne désarment pas. Alors, Israël se met à riposter à la suite des États-Unis, puisque oui. jusqu'à présent, Israël
Avec
n'avait pas...
les États-Unis.
Mais c'est les États-Unis qui ont ouvert le feu les premiers, et c'est les autres. Alors, je rappelle que dans toutes ces affaires-là, de tirs de missiles, en particulier missiles balistiques, etc., il y a besoin d'une couverture aérienne et satellitaire que seuls les États-Unis sont en capacité de fournir. C'est-à-dire que M. Netanyahou, tout va tant guerre qu'il est, et son ministre de la Défense, ne peuvent rien faire s'il n'y a pas un feu vert du Pentagone. Que les choses soient bien claires. Donc ne le chargeons pas lui, il ne fait que ce que les autres rendent possible. Et on va y venir sur un autre cas qui est très très intéressant et qui vient de ressortir. Alors, je m'arrête sur les négociations sur l'Iran. Les conditions de la négociation, on les connaît, puisque l'Iran dit, c'est clair, je veux avoir accès, comme tout le monde, au nucléaire civil, comme tous les pays du monde. Je suis en règle avec le traité de non-prolifération. J'accepterai les visites des inspecteurs de l'AIEA dès l'instant où les choses seront claires, dès l'instant où l'accord qui existait entre nous sera renouvelé. Et là, les États-Unis sont bien embarrassés parce qu'ils voudraient rajouter des conditions supplémentaires. Il n'y en a pas. Hein. C'est, vous renoncez, quand l'Iran dit « je ne veux pas l'arme nucléaire, je ne l'ai jamais voulu, je veux accéder au nucléaire civil », il ne fait que ce que font la totalité des pays du monde, à part ceux qui ont l'arme nucléaire.
Et si l'Amérique, elle veut vraiment attaquer... À ce moment, l'Iran a répondu.
Ah ben bien sûr.
Que ce sont les bases américaines en premier qui sont.
Bien sûr. Voilà. Et on sait qu'il y en a tout autour.
Alors, il y en a partout. Oui.
Il y en a partout. Il y a des cartes qui ont été publiées là-dessus. Il y en a L'Iran est encerclé par des bases. Hein, c'est tout à fait clair. Ouais. Donc, bon, on en est là. Les conditions du jeu sont connues. Et ça va. Peut-être se poursuivre. Enfin, les négociations ont repris. Ce qui veut dire que, malgré l'agitation frénétique de Netanyahou, les États-Unis se rendent bien compte qu'il faut essayer d'arriver à quelque chose. Ou au moins, peut-être, alors c'est peut-être là comme ça sera peut-être le point d'atterrissage de la négociation, il y aura une petite concession sur je ne sais quel objectif hyper secondaire de la part des Iraniens, mais rien sur le fond, puisque sur le fond, l'affaire est parfaitement limpide. Bien. Alors. Dernière chose, dernier conflit très très important à suivre, on a le temps, ou bien on fait un intermède africain, si on peut passer l'interview. Oui, on va faire une pause africaine. Alors vous allez voir, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, alors vous allez comprendre, on ne passera pas tout parce que ça dure un peu trop longtemps, vous allez entendre le début d'une émission qui a été mise en ligne par la radio burkinabé, qui correspond à la capture par les services de renseignement burkinabé d'un espion français qui était arrivé sous une couverture journalistique et qui passait son temps à aller photographier les installations militaires du Burkina Faso, se préoccupant de la circulation, où étaient les munitions, où étaient les moyens de transport, etc. etc. Donc qui était là pour préparer une agression militaire de la République macronienne contre le Burkina Faso, que les choses soient bien claires. Alors là où ça a été très très remarquable, et il faut dire un coup de chapeau à M. Ibrahim Traoré, donc le président du Burkina Faso, c'est que le monsieur... Non, on ne t'entend pas, on se lit. Non, on ne t'a pas entendu. Dis-nous. Alors Roselyne essaye de nous dire quelque chose. Non. Bon, alors, toujours est-il, voilà, le monsieur en question, donc il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Morel, je pense que c'est son vrai nom, est arrivé donc se présentant comme un journaliste, se présentant comme quelqu'un de très gentil en disant qu'il aimait beaucoup Traoré, etc. etc.
Oui.
Bon. Et puis, quand même, il a un peu suscité la curiosité parce qu'il l'a regardé circuler, puis il a circulé aux alentours des camps militaires, des zones de stockage de munitions, etc. Et ils se sont mis à le surveiller de plus près. Et ils se sont aperçus que le soir, en pleine nuit, quand ce monsieur Morel rentrait dans son Airbnb, dans son logement, il était là, il envoyait des messages cryptés à un correspondant à Abidjan. Ah, des messages cryptés tous les jours, et quantité de messages cryptés. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait récolté comme information dans la journée partait directement à Abidjan. Alors pourquoi Abidjan ? Parce que là encore, l'armée française a des, encore quelques petits restes et un gouvernement totalement complice de la République macronienne. Donc c'était par là que ça se passait.
C'est plutôt ça, oui.
Alors, je voulais préciser, tu m'entends là ?
Oui, oui, tout à fait.
Que Ibrahim Traoré sera en Russie le 9.
Ah. Très bien, voilà, encore, voilà, une belle présence, très bien, il mérite tout à fait d'être là. Et donc ce qu'a organisé donc, le gouvernement burkinabé et le président, donc Ibrahim Traoré, c'est qu'il a organisé, à l'attention de ce monsieur Morel, une fausse conférence de presse à laquelle ce monsieur Morel a été invité. Et donc il s'est retrouvé, la scène est décrite, vous allez voir dans le petit bout d'enregistrement qu'on va passer, on ne passera pas tout, ça dure un petit quart d'heure, mais il se trouve qu'il s'est rendu compte qu'il avait été piégé petit à petit, puisqu'il a d'abord parlé, puis après Traoré lui-même a vu très gentiment, lui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez savoir ? On est là pour vous répondre, moi je suis représente le gouvernement du Burkina Faso, dites-moi ce que vous voulez savoir. » Et l'autre a commencé à se rendre compte qu'il était tombé dans un piège. Voilà. Et donc après Traoré a dit « Ben voilà ce que nous savons de vous, ceci, cela, les communications cryptées, les photos, etc. etc. » Ah, et là, écoute, l'autre était perdu, il ne savait plus quoi faire, et donc il s'est retrouvé, maintenant il est avec des menottes dans un camp militaire dont il ne sortira que pour son procès. Il n'a pas été passé par les armes, il ne sortira que pour son procès. La vidéo, tous les gens qui étaient, les autres journalistes qui étaient des vrais ou des faux, ça n'a pas beaucoup d'importance, qui étaient là, tout a été filmé. C'est une vidéo qui a fait le tour de l'Afrique en 24 heures. Tellement c'est spectaculaire. Et bravo, alors bravo le Burkina Faso, bravo parce que aucune violence, ni même verbale, simplement pris la main dans le sac, un complice d'Emmanuel Macron.
Et il y en a d'autres, moi je vous l'ai dit.
Certainement. Voilà, on écoute un petit morceau de ce morceau de bravoure.
Il disait vouloir raconter l'histoire de l'Afrique. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il ne tournait pas un documentaire. Il cartographiait des secrets. Il ne cherchait pas la vérité. Il traquait des cibles. Tout a commencé discrètement. Un homme à la peau claire, aux chaussures impeccables et à l'accent français a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou avec un visa de touriste et un badge de presse épinglé à sa chemise. Il a déclaré aux douaniers qu'il était journaliste indépendant, venu pour comprendre les défis sécuritaires du Burkina Faso et partager les voix locales avec le monde. Il souriait, parlait un français fluide et affirmait admirer le courage du président Ibrahim Traoré. Il est rare de voir de jeunes leaders africains tenir tête à l'Occident, a-t-il dit. Les gens l'ont cru. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait ? Il se montrait poli. Il offrait de l'eau aux chauffeurs de taxi. Il distribuait des stylos aux écoliers. Il achetait du thé dans les marchés des villages et photographiait les couchers de soleil et les chèvres. Mais derrière l'objectif de sa caméra, il filmait autre chose. Au cours des semaines suivantes, le journaliste a visité des endroits où la plupart des reporters ne vont pas. Il séjournait près des camps militaires, se promenait à proximité des voies ferrées et posait des questions aux gardes locaux sur les itinéraires de transport et les cargaisons de minerais. Quand un soldat a plaisanté, « Vous posez plus de questions que notre propre commandant », l'homme a ri et répondu, « C'est comme ça que les journalistes apprennent ». La nuit, il logeait dans une maison d'hôte à la périphérie de la ville. Personne ne l'a jamais vu boire ou faire la fête. Mais on a remarqué quelque chose d'étrange. Il passait des appels internationaux chaque soir, n'utilisant jamais de carte SIM locale. Il ne publiait pas ses reportages en ligne. Il ne mentionnait personne. Il prétendait que tout serait publié dans un rapport spécial en Europe. Pourtant, il n'y avait ni article, ni signature, ni rapport publié en France. Au début, les locaux pensaient qu'il était simplement excentrique. Mais une nuit, lorsqu'on l'a vu près d'une tour radio à accès restreint, les choses ont changé. Les services de renseignement burkinabés ont commencé à l'observer discrètement. Ils ont suivi ses déplacements. Ils ont cloné sa carte SIM sans toucher à son téléphone. Ils ont enregistré ses courriels, ses textos et ses messages vocaux. Ce qu'ils ont découvert n'était pas du journalisme. C'était de l'espionnage. Et lorsque le président Traoré a vu les preuves lui-même, il n'a pas ordonné une descente. Il a fait quelque chose de plus intelligent. Il a invité l'espion à poser ses questions directement, face à la caméra, devant la nation. Les caméras de télévision tournaient discrètement tandis que les chaises étaient disposées. Une petite conférence de presse avait été annoncée à Ouagadougou, organisée par le bureau de la présidence. Mais contrairement à l'habitude, il n'y avait ni dossier de presse, ni questions préétablies, ni reporters de CNN, BBC ou RFI. Juste quelques journalistes locaux triés sur le volet, et un nom ajouté à la liste des invités à la dernière minute, M. Julien Morel, journaliste indépendant, France. Il est arrivé seul, vêtu d'un pantalon beige, d'une chemise blanche et du même badge de presse qu'il avait montré à l'aéroport des semaines plus tôt. Pas de trépied, pas de caméraman, juste son sac à bandoulière, son carnet et un léger sourire en coin. il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. En entrant dans l'enceinte, il a salué les gardes comme s'il était chez lui. « Je suis ici pour la conférence de presse du président », a-t-il déclaré avec assurance. Un soldat a hoché la tête et lui a indiqué le chemin. Mais derrière l'uniforme, les yeux du soldat l'observaient attentivement. À l'intérieur, la salle était silencieuse, peut-être trop silencieuse. Les caméras tournaient déjà. Un micro trônait au centre. Il n'y avait que 6 chaises pour les journalistes, disposées en demi-cercle. Julien s'est assis nonchalamment, a ouvert son carnet et a regardé autour de lui. Personne ne lui a souri. Personne ne l'a salué. L'atmosphère était froide. Mais il a balayé cela du revers de la main. Il pensait que c'était normal. Peut-être était-il nerveux en présence d'un journaliste européen. Puis la porte s'est ouverte, et le président Ibrahim Traoré est entré, calme, droit, vêtu non pas d'un costume, mais de son uniforme militaire. Il n'avait pas l'air fatigué. Il n'avait pas l'air pressé. Il avait l'air prêt. Julien s'est levé et a tendu la main. « Monsieur le président, c'est un honneur. J'espérais. » Traoré lui a serré la main fermement et a répondu « Vous avez posé beaucoup de questions sur nous, Morel. Aujourd'hui, je vais y répondre, mais d'abord, j'en ai quelques-unes pour vous. » Julien a cligné des yeux. « Était-ce un piège ?» Il a souri nerveusement, feignant la décontraction. « Bien sûr, c'est à cela que servent les interviews. » Mais ce ne serait pas une interview ordinaire, car Ibrahim Traoré n'avait pas invité un journaliste. Il avait invité un espion. Et les minutes suivantes allaient révéler l'ampleur de la trahison. Les questions ont commencé. La lumière rouge des caméras clignotait doucement. Les 6 journalistes étaient silencieux, carnets ouverts, mains immobiles. Au centre se tenait le président Ibrahim Traoré, calme, posé, sans aucun papier. En face de lui, Julien Morel ajustait son col. Il était habitué à contrôler les interviews. Mais cette fois, quelque chose était différent. Traoré ne souriait pas. Il n'annonçait pas de politique ni ne lisait de déclaration. Il l'observait. « Monsieur Morel, a commencé Traoré. Vous êtes dans notre pays depuis 23 jours, c'est exact ?»« Oui, monsieur le président », a répondu Julien, stabilisant sa voix. « J'ai recueilli des histoires, filmé des locaux, essayé de comprendre. »« Comprendre quoi ?» Julien a hésité. « Eux, les défis auxquels votre peuple est confronté. » La sécurité, les infrastructures, les relations étrangères. Traoré a hoché la tête lentement, puis s'est tourné sur le côté. Un soldat s'est avancé, tenant un dossier scellé. « Vous avez visité 9 zones adjacentes à des installations militaires », a poursuivi Traoré. « Vous avez enregistré 3 emplacements stratégiques en les déguisant en interview avec des gardes. » Julien a cligné des yeux. La salle est devenue plus froide. « Je suis journaliste », a-t-il dit. « C'est ce que nous faisons. Nous allons là où sont les histoires. » Traoré s'est approché. Est-il aussi normal pour un journaliste d'envoyer des courriels cryptés à 2h du matin à des serveurs enregistrés à Abidjan? Julien s'est figé. L'une des journalistes a tourné la tête, choquée. Le soldat a ouvert le dossier et a brandi une photo, Julien, la nuit, ordinateur ouvert, client de messagerie cryptée à l'écran. Puis une autre, Julien devant une tour radio militaire, téléphone en main. Et encore une autre, des captures d'écran de messages envoyés à un homme connu des services de renseignement burkinabé, un contractant militaire français opérant sous couverture diplomatique en Afrique de l'Ouest. Le visage de Julien a perdu toute couleur. « Je peux expliquer. Faites donc », a dit Traoré. Mais Julien n'avait plus de mots. Il n'était plus sous la pression des questions. Il était sous enquête. Traoré s'est tourné vers les caméras. « Cet homme prétend être venu comprendre notre peuple. Mais en réalité, il est venu enregistrer nos points faibles, cartographier nos mouvements et envoyer nos secrets à l'étranger. Il n'est pas venu raconter notre histoire, mais écrire la sienne. » Puis Traoré a ajouté, « Que le peuple décide si c'est du journalisme ou une trahison. » Le silence dans cette salle était plus assourdissant qu'un coup de tonnerre. Julien Morel était venu exposer l'Afrique, mais c'était désormais l'Afrique qu'il exposait. La main de Julien Morel tremblait alors qu'il attrapait son sac. La salle restait silencieuse, les caméras continuaient de tourner, mais l'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme une simple conférence de presse était devenu autre chose, un procès public, un démantèlement discret, et il en était la cible. « Monsieur Morel », a dit calmement le président Traoré. « Niez-vous ces photos, ces messages, ces enregistrements ?» Julien a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Il transpirait maintenant, non pas à cause de la chaleur, mais parce que son plan, quel qu'il ait été, s'effondrait. Un second soldat est entré, portant un ordinateur portable noir. C'était celui de Julien, confisqué la veille au soir sans qu'il s'en rende compte. Traoré a hoché la tête. « Montrons quelque chose à la salle », a-t-il dit. L'écran s'est allumé. Le projecteur a illuminé le mur. Une carte en temps réel du Burkina Faso est apparue, avec des repères sur les routes pétrolières, les sites miniers et 2 dépôts militaires non marqués. « Trouvé dans un dossier intitulé « Pour révision », a déclaré Traoré. Des murmures de choc ont résonné dans la salle. Julien a secoué la tête lentement. « Je n'ai pas, c'était juste des notes. Je n'ai pas envoyé. Alors expliquez ceci, l'a interrompu Traoré. Il a brandi une feuille avec un courriel imprimé, mouvement des cibles prévisible. Sécurité du palais faible près de la porte ouest, peut être surveillée pour un futur placement d'actifs. Le visage de Julian est devenu blême. Non, ce n'est pas, c'est faux. Il a été envoyé depuis votre courriel crypté à 2h17 du matin, depuis une maison d'hôte dans la zone 3. Nous ne falsifions pas les preuves, monsieur Morel. Nous les collectons. Les journalistes locaux regardaient, incrédules. Certains murmuraient des prières. D'autres fixaient l'homme blanc dans la salle, celui qui autrefois marchait avec assurance, maintenant tremblant, ses mensonges se défaisant fil par fil. Il était venu avec un plan. Mais il avait sous-estimé le pays. Il avait sous-estimé ses services de renseignement. Et surtout, il avait sous-estimé l'homme face à lui. Le président Traoré s'est lentement dirigé vers le micro. Il n'était pas en colère. Il n'a pas crié. Il a simplement regardé la caméra et dit « C'est ce qu'il nous envoie ». Pas de l'aide, pas des excuses, mais des espions avec des caméras qui se font passer pour des journalistes. Il pense que nous allons sourire et nous taire, mais ce temps est révolu. Puis il s'est tourné une dernière fois vers Julian. « Vous êtes venu pour des histoires. Maintenant, vous êtes l'histoire. » Et sur ces mots, Traoré a donné l'ordre, escortez-le. Deux gardes se sont avancés. Julian Morel n'a pas résisté. Il a simplement baissé la tête et est sorti par où il était entré. Mais cette fois, il ne tenait pas la caméra. Il était dans le cadre. Au coucher du soleil, la salle de presse était vide. Les caméras étaient rangées. Les chaises pliées. Mais le moment de cette confrontation entre le président Ibrahim Traoré et Julian Morel avait déjà quitté la salle. Il était partout. Le premier clip vidéo est apparu sur les réseaux sociaux seulement une heure après l'événement. Il montrait Traoré demandant calmement « Appelez-vous cela du journalisme ou une trahison ?» Puis sont venues les images, l'écran de l'ordinateur portable, les cartes militaires, les courriels interceptés, et enfin l'homme français blanc quittant la salle en silence, encadré par deux gardes. Internet a explosé. Au Burkina Faso, les gens se sont rassemblés dans les cafés et les maisons pour revoir les images encore et encore. Un homme a crié, il a attrapé un espion en direct à la télévision. Une grand-mère dans un village près de Kaya a murmuré « Nous avons attendu longtemps pour voir un président se tenir aussi droit. » À travers l'Afrique de l'Ouest, la vidéo s'est propagée comme un feu. TikTok, WhatsApp, Facebook. Partout, les gens regardaient Traoré retourner la situation. Ils sont venus nous étudier, mais c'est eux qui ont été étudiés. Voilà comment on les affronte, avec des faits, pas avec la peur. À Ouagadougou, des étudiants ont peint une fresque de Traoré avec les mots « L'Afrique a des yeux maintenant ». Au Ghana, un tweet viral disait « Il n'a pas haussé la voix, mais il a élevé la norme ». En France, cependant, la réaction était différente. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué froid, « Nous examinons la situation et attendons un traitement équitable pour tous les citoyens. » Mais ils n'ont rien dit des preuves. Ils n'ont rien dit des cartes, des courriels ou du lien avec Abidjan, car ils ne le pouvaient pas. Pendant ce temps, au Burkina Faso, Julian Morel était officiellement en état d'arrestation, non pas pour être journaliste, mais pour surveillance non autorisée et atteinte à la sécurité nationale. Il a été transféré dans une installation sécurisée à l'extérieur de la capitale. Mais il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait de chaque micro utilisé pour collecter des secrets, de chaque poignée de main accompagnée d'une condition cachée, de chaque photo prise avec des visages souriants et des doubles sens. Le président Traoré n'a pas fait d'autre discours. Il n'en avait pas besoin. Le monde avait déjà entendu ce qu'il avait dit dans cette salle. Vous êtes venu pour des histoires. Maintenant, vous êtes l'histoire. Et à mesure que la vidéo devenait virale...
Ouais. Voilà.
C'est parfait.
Voilà. Donc, opération très, très, très remarquable, qui se suffit à elle-même, puisque pendant 4 jours suivant la capture, Traoré n'a rien dit, n'est pas apparu et tout, parce que c'était tellement clair et tellement limpide qu'il n'avait pas l'impression de battre le tam-tam. Regardez ce que j'ai fait. Il l'a fait. Il a eu le courage de le faire. Il a marqué un point considérable. Et je salue, ce que je ne savais pas, je salue sa présence à Moscou vendredi prochain. Il y a toute sa place, toute sa place.
Ouais.
Et je rappelle, donc, il est confirmé que Abidjan reste du temps de Ouattara, qui est en train de s'achever, mais qui ne l'est pas encore, l'endroit où la France garde encore une emprise et organise tout ce genre d'activité. Puisque dans l'AES, aussi bien que ce soit au Mali ou au Niger, ça devient impossible. Et donc la Côte d'Ivoire, hélas pour la Côte d'Ivoire et ses habitants, reste encore ce nœud de l'intervention coloniale française dans cette zone-là, ouest de l'Afrique.
Il y a des élections en Côte d'Ivoire, là.
Oui, il y a des élections à l'automne, élections présidentielles. Élections présidentielles sur lesquelles on reviendra, puisque, en fait, tout est fait pour empêcher Laurent Gbagbo de se présenter à la présidentielle, parce que tout est fait parce qu'il est certain, vu les réactions de la population, les sondages et tout, qu'il gagnerait très, très facilement les élections. Et donc, tout peut être fait, et on peut imaginer, y compris de la part de Ouattara et de sa bande, des horreurs. Donc on a une situation extrêmement explosive sur laquelle on reviendra, mais on a déjà tous les éléments, et puis on a, vous pouvez faire confiance à Comaguerre et à nous tous pour vous apporter des informations les plus croustillantes possibles sur cette évolution. Mais il s'agit d'un très très gros dossier pour ce qui reste de la France-Afrique. C'est pratiquement le dernier gros dossier, car si effectivement Gbagbo revenait au pouvoir, il reviendrait entouré d'une équipe rajeunie. Je rappelle que lui-même approche les 80 ans, mais il est président, il serait président parce que son aura, ce qu'il a souffert de la part de la France, qui est considérable, des années d'emprisonnement, des tentatives d'assassinat, etc., fait qu'il est incontournable en tant que nouveau président, mais les générations futures, pour l'encadrer, l'aider dans cette tâche, sont en formation. Et donc, je pense qu'elles seront au rendez-vous, mais on vous en parlera plus largement. Et puis, je voulais aborder un dernier sujet, plusieurs derniers sujets. Simplement, dire un mot quand même sur ce qui se passe en Syrie. Parce que je ne peux pas et je ne supporte pas que M. Emmanuel Macron reçoive demain l'égorgeur à l'Élysée. Je ne supporte pas.
Hein. Personnellement, moi aussi, voilà. Ça fait 80 ans que je suis en France, j'ai vu des présidents. Mais c'est la première fois que je vois un président nul en France, malheureusement. Ouais, ouais. Malheureusement, il ne représente pas la France, c'est tout.
Alors, et le problème, c'est qu'il est nul, et je partage, mais il se prend exactement pour un génie.
Pour un génie.
Et donc,
oui,
c'est là, on a une vraie faille, une vraie faille, une espèce de gouffre politique devant la population française.
Surtout,
c'est-à-dire,
on a affaire à un criminel de haut niveau.
Mais oui, qui est recherché, qui a été recherché, qui est encore recherché en Irak, puisque j'ai vu qu'il était question qu'il soit invité en Irak, et le gouvernement irakien ou des élus ont fait savoir qu'il y avait encore des mandats d'arrêt qui existaient contre lui, parce qu'il était le futur chef du califat islamiste qui se serait installé si Daesh avait gagné la guerre en Irak.
Rien que ça.
Bon, alors, et ce monsieur est reçu à l'Élysée demain. C'est déshonorant.
C'est vraiment déshonorant.
Totalement déshonorant.
Je suis d'accord avec toi, Bernard.
Bon, ce monsieur, alors j'insiste lourdement, mais il n'est pas syrien. Ce monsieur ne représente rien.
Alors, voilà.
Et il est entouré d'une équipe où il n'y a pratiquement pas de Syriens. C'est-à-dire le gouvernement, son gouvernement, pour ce qui gouverne d'ailleurs, ne représente pas la Syrie puisqu'il n'y a pas de Syriens dedans. Et les Syriens sont maltraités en tant que Syriens. Alors on a parlé d'abord, on a parlé des Alaouites, on a parlé des chrétiens.
Des Druzes.
Alors maintenant on parle des Druzes. Alors des Druzes, je dis deux mots. Alors les Druzes sont soutenus par... Alors les Druzes, c'est un courant très très particulier de l'islam, mais qui existe, qui a subi des tentatives.
C'est-à-dire les Druzes, ils existent. Voilà. Une partie en Israël, une partie au Golan, une partie au Liban et une partie en Syrie.
En Syrie, voilà.
Voilà, c'est problématique.
Tout à fait.
Mais les Druzes de la Syrie sont prononcés en disant « Nous, on est pour l'entité syrienne. »
C'est tout.
C'est-à-dire une république laïque et qui respecte toutes les minorités.
Voilà. Ce qui était le cas jusqu'au mois de décembre.
Oui, exactement.
Parce qu'on a beau gloser sur le régime de Bachar el-Assad, on avait affaire à un régime laïque qui est tombé. Alors je rappelle les propos de l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à Damas, M. Peter Ford, qui a dit qu'il était impossible qu'un gouvernement tienne aussi longtemps que celui de Bachar el-Assad après tout ce que les États-Unis lui ont fait. Peter Ford, ambassadeur de la Grande-Bretagne à Damas, qui dit ça. La longévité de Bachar el-Assad est absolument incroyable quand on voit tous les efforts qui ont été faits pour le faire tomber. Bon. Je ne m'étends pas là-dessus, mais il fallait le dire.
C'est pas fini.
Mais non, et ce n'est pas fini, parce que de toute façon, on a commencé à avoir des frottements entre la Turquie, qui occupe une partie du territoire syrien, et Israël, qui occupe l'autre partie. Ces frottements ne sont pas terminés, et il faut savoir que la qualité, je mets ça entre guillemets, des ambitions sionistes, fait de toute façon que cette cohabitation ne peut pas durer à long terme.
Moi, je lance un appel surtout aux minorités, particulièrement les Druzes, qui est soi-disant soutenue par Israël. Mais Israël, elle a ses intérêts.
Il se moque d'eux complètement. Mais bien sûr.
Et j'espère qu'ils ont bien compris.
Oui, il faut le souhaiter. Voilà, donc effectivement, situation syrienne sur laquelle on reviendra, mais qui est rien sauf réglé, et c'est d'autant plus déplorable, sachant que la situation était très instable, compliquée avec cette intervention de deux puissances qui ne s'entendent pas, mais qui se partagent pour l'instant le territoire, qui espèrent bien découper, parce que le fond qu'il y a derrière, c'est un découpage, c'est-à-dire la disparition de la Syrie, la disparition d'un pays qui figure déjà sur des cartes 2500 ans avant Jésus-Christ. Ça, on l'oublie, et ça, c'est la réalité profonde. Bon. On y revient.
On y reviendra, parce que oui, les découpages, tout ça.
Exactement. Ouais. Et je voulais maintenant donc parler d'un autre conflit qui est en train de devenir très très chaud, qui est le conflit entre le Pakistan et l'Inde.
Et l'Inde.
Ça c'est très très important, puisque
surtout,
en fait, on sait qu'au départ, donc il y a un attentat qui se passe donc dans la province du Cachemire, qui est une province donc. Le Cachemire a été découpé en deux, je ne rentre pas trop dans cette histoire. Une province donc qui est pour l'instant tenue par l'Inde, et dans laquelle il y avait une population, il y a toujours une population à majorité musulmane, et l'équilibre restait, l'Inde gouvernait, mais on laissait les musulmans tranquilles. Et en fait, le jeu a été perturbé et déséquilibré par M. Modi lui-même, qui, je crois que c'est en 2019, a autorisé l'installation d'Indiens sur le territoire de la République du Cachemire.
Bon. Cachemire indien.
C'est-à-dire qu'il était en train de commencer à ouvrir les voies d'une recomposition de la démographie de cette province du Cachemire pour que petit à petit, les musulmans y deviennent minoritaires. Alors, on connaît la cuisine, on l'a vu en Nouvelle-Calédonie, quand vous avez une province qui vous échappe, vous essayez de changer la population.
On l'a vu en Turquie.
Voilà. Quand le peuple désobéit, on change le peuple. Le peuple, donc on ramène des Indiens. Bon. Alors il se trouve qu'il y a de ça une quinzaine de jours maintenant, il y a un autocar de touristes qui circulait, alors rempli d'Indiens, donc d'Inde, qui était venu profitant de cette nouvelle liberté des Indiens sur le territoire du Cachemire et qui a été victime d'un attentat. Pratiquement tout le monde est mort. Il n'y avait que deux non-Indiens et donc tout le monde est mort. À partir de ça, immédiatement et dans l'heure qui suit, l'Inde accuse le Pakistan d'avoir organisé. Alors, il y a au Pakistan. Alors, le Pakistan, c'est ainsi. Il y a un gouvernement, il y a une armée qui a sa vie à elle, et puis il y a aussi à l'intérieur du Pakistan des groupes islamistes qui sont capables de faire ça.
Oui.
Ça c'est incontestable. Donc ça donne un argument facile au gouvernement indien pour dire c'est évidemment des Pakistanais qui l'ont fait. Sous-entendu, je fais porter la responsabilité au gouvernement au passage, même si je sais que c'est pas le gouvernement, c'est des terroristes pakistanais qui ont fait le coup. Bon. Alors, ça c'est bien, c'est pour l'instant que...
Je ne soutiens pas le gouvernement pakistanais.
Voilà, et pour l'instant, effectivement,
on en est là.
Alors, on en est là, mais on en arrive à des menaces très très graves, puisqu'il y a une préparation militaire apparemment visible côté indien pour mener une attaque contre le Pakistan, et puis il y a une menace sur l'eau. Alors, il faut savoir que dans ces régions-là, la question de l'eau est centrale, en particulier l'eau de l'Indus, ouais. Puisque l'Indus est le grand fleuve qui part donc depuis l'Himalaya, qui descend dans le Pakistan, mais qui a des affluents qui arrivent depuis le Cachemire. Et donc, effectivement, si les affluents de l'Indus sont fermés, c'est-à-dire que l'Inde prend toute l'eau qu'il y a dans ses affluents qui sont sur le territoire du Cachemire, l'Indus voit son volume baisser et donc il manque d'eau pour arroser les terres pakistanaises. Donc c'est une menace vitale, réelle, qu'ils n'avaient jamais utilisée jusqu'à présent. Parce qu'il y avait eu un accord qui avait été passé sous l'égide de la Banque mondiale avec de longues négociations pour essayer d'éviter que l'un des deux n'empêche pas l'autre de manger. En gros, c'était ça l'idée. Bon. Donc le ton monte très très vite, et on voit, paraît-il, à vue de satellite, les préparatifs militaires côté indien. Alors qu'est-ce qu'on a en face de ça? Un gouvernement pakistanais qui nie. Le problème, c'est que ce gouvernement pakistanais, il est issu d'une espèce de coup d'État légal, sans bain de sang, effectivement, mais qui a consisté à mettre à la porte un président qui était le premier président pakistanais qui essayait enfin de sortir de ce rapport conflictuel entre ces deux pays, M. Imran Khan.
Ouais.
Et donc, pour l'instant, le coup d'État tordu qui a été organisé a réussi, puisque M. Imran Khan est toujours en prison et on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra revenir au pouvoir ou pouvoir refaire de la politique librement. Toujours est-il que son parti est extrêmement fort, même s'il a été dissous et interdit. Et donc on a une situation qui est compliquée au niveau du Pakistan. Elle est d'autant plus compliquée que M. Imran Khan avait fait un geste qui avait été retenu contre lui par qui ? Bon, une partie par l'armée pakistanaise, surtout par les États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a quelques mois, je vais vous situer ça, quelques jours avant les débuts de l'opération militaire spéciale, M. Imran Khan était à Moscou et avait rencontré le président russe. Et ça, vu de Washington, c'est une faute impardonnable. Et donc, M. Imran Khan a payé la faute, c'est-à-dire il est allé dire qu'on pouvait discuter avec la Russie et mettre la Russie dans le jeu pour essayer de trouver un arrangement entre ces deux pays, parce qu'il a bien compris, comme nous tous, que M. Modi est un hindouiste dangereux, à la tête d'1,4 milliard de personnes, c'est vrai, mais ça reste un hindouiste dangereux qui joue toujours et qui continue à jouer sur la division religieuse au sein de son propre pays. Bon, oui. On le sait.
Il y a eu beaucoup de musulmans.
Voilà. Et puis, on sait que, alors, il ne peut pas venir à bout de la minorité musulmane, puisque c'est guère que 150 millions dans la République d'Inde. Donc mais on sait qu'il est dangereux de ce point de vue-là. Et il a un passé très, très lourd, en ce sens que quand il était gouverneur du Gujarat, il a lui-même organisé des pogroms anti-musulmans. Lui-même, gouverneur. Bon, alors, n'idéalisons pas M. Modi. Alors, M. Modi est à la tête d'une grande puissance, c'est vrai, mais il est quand même inquiétant sur beaucoup d'aspects. Ok, c'est noté. On nous rappelle qu'on finit à 15h. C'est vrai qu'on a beau avoir 1h30.
Alors, il faut dire qu'il y a l'Iran qui se porte actuellement comme...
Voilà, alors il a offert ses services comme médiateur.
Oui.
Alors, en fait, je ne sais pas si ça va marcher. D'après les dernières nouvelles, ça serait plutôt une médiation russe qui aurait lieu. Alors, une médiation russe qui aurait lieu sur la base d'un appel d'abord de l'ambassadeur pakistanais à Moscou qui a dit qu'ils acceptaient la médiation russe. Et on a de bonnes raisons de penser que, vu les relations qui existent entre la Russie et l'Inde, qui sont des relations historiques, même si elles se dégradent un peu à l'occasion du fait des politiques de M. Modi, que ça va jouer et que la médiation russe sera acceptée par les deux parties.
Voilà.
Pour éviter, parce qu'on en était, on était prêt à un affrontement militaire.
C'est dangereux.
Voilà, c'est dangereux, parce que ce sont des puissances nucléaires. Alors, je ne pense pas qu'ils en arrivent là, mais ça pourrait être très, très sanglant. Il faut savoir qu'il y a déjà eu plusieurs affrontements militaires entre le Pakistan et l'Inde. Voilà. Et il y a une donnée tout à fait importante qui n'a pas été mise sur le tapis, mais que je mets sur le tapis parce qu'elle est de première grandeur. Pourquoi le Pakistan, aujourd'hui, son gouvernement et surtout son armée, a peur d'une intervention militaire de l'Inde ? Parce que les stocks de munitions sont vides. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une des armées les plus puissantes du monde, un pays de 250 millions d'habitants, etc. Comment ça se fait que les stocks de munitions sont vides ? Cherchez l'erreur. Où sont allées les munitions pakistanaises ?
Afghanistan ? Non.
En Ukraine ! En Ukraine. Voilà. Alors effectivement, ils sont en train de se rendre compte, et M. Modi et les services secrets indiens le savent aussi, je peux leur faire peur, puisqu'effectivement, je sais que tout est parti. Ils ont, paraît-il, 4 jours de munitions en réserve sur place. C'est-à-dire qu'au 5e jour, c'est terminé, le Pakistan disparaît de la planète. Bon. Et donc, c'est pour ça que la Russie, je pense, va calmer le jeu. Et elle a d'autant plus intérêt à le faire qu'effectivement, tout ce matériel, parce que les stocks militaires, l'armée est un pouvoir très, très important au sein même de la vie pakistanaise. Et donc, si tout est parti là-bas, c'est qu'effectivement, le Pakistan, son gouvernement... D'après Imran Khan, ça ne s'est pas passé du temps d'Imran Khan. C'est pour ça d'ailleurs que le nouveau gouvernement a remplacé Imran Khan. Imran Khan était allé à Moscou parce qu'il devait savoir qu'effectivement il y avait des réseaux, des trafiquants et l'armée pakistanaise qui fournissaient des armements à l'Ukraine. Et il était allé voir Poutine pour ça, pour lui dire « bon, on va essayer de calmer le jeu parce que ce n'est pas la peine que ce soit des armes pakistanaises de mon armée à moi qui tuent tes soldats à toi ». C'était ça le but de la visite d'Imran Khan à Moscou. Et c'est pour ça qu'il est tombé. C'est pour ça qu'il est tombé, puisque le coup d'État...
Ils ont voulu le supprimer même.
Voilà, ils l'ont raté de pas beaucoup. Et donc, on a là un développement qu'on n'attendait pas, mais d'une situation qui date de loin, puisque ça date de 2002, tout ça. Et donc, et ça veut dire que les réseaux de trafic d'armes organisés par l'armée pakistanaise étaient déjà au point. Et que les services secrets, le russe, le savaient certainement, comme les services secrets pakistanais et comme les services secrets indiens. Donc, on a affaire là à une situation complexe sur laquelle je vous donne un certain nombre d'éléments de réflexion pour bien l'éclairer. Je pense que la médiation russe va aboutir, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose comme un accord. On va d'abord, alors le premier point étant de dire, qu'est-ce que c'est que cet attentat ? D'où il vient ? Parce que pour l'instant, il y a eu des accusations ou des dénégations simples, c'est vrai, c'est pas vrai, et on en est arrêté là. Pourquoi il a eu lieu ? Qui avait derrière ? Qui l'a fait ? Parce qu'il est tombé précisément à un moment très très important, puisqu'effectivement, au moment où l'avenir de l'Ukraine, l'Ukraine nazie est en cause, il ne fallait surtout pas qu'on parle de la question des livraisons d'armes du Pakistan à l'Ukraine. Donc, moi, je postule un retour au calme relatif dans cette région-là du monde. Et il y a besoin. Il y a besoin parce que la dernière notion que je vais donner, c'est que le président par intérim actuel du Bangladesh, alors je rappelle, le Bangladesh, c'est l'autre côté de ce qui restait du grand Pakistan suite à des départs de l'Angleterre. Ce Bangladesh a été le théâtre, donc à l'été 2024, d'un coup d'État qui a mis à sa tête une équipe intérimaire. Alors, on y a vu la main des États-Unis. Alors, elle y était certainement. Elle y était certainement, mais ce que ça amène à réfléchir, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais c'est que la main américaine dans les coups d'État tordus, les révolutions de couleur, etc., est toujours là. Seulement, le problème, elle a un peu d'arthrose, la main américaine. C'est qu'ils avancent, ils essayent, on les voit arriver, j'allais dire, gros comme une maison, mais ça marche de moins en moins bien. À telle enseigne que le président par intérim, ancien prix Nobel de la paix, ayant enseigné longtemps aux États-Unis, donc c'était vraiment un choix américain caractérisé et tout, est allé le mois dernier à Pékin pour dire finalement l'avenir économique du Bangladesh, c'est avec la Chine qu'il est, c'est pas de l'autre côté. Ah! Alors là, ça veut dire que toute la révolution de couleur tombe en miettes, ça ne veut plus rien dire, ça ne marche pas, et on attend la suite des événements. Alors la suite des événements, c'est le retour au Pakistan de l'ancienne première ministre qui est revenue, sa fille aussi d'ailleurs, qui était en semi-exil, en soins, paraît-il, en Grande-Bretagne. Mais il faut savoir que cette équipe qui a pris le pouvoir avec M. Yunus, donc le fameux prix Nobel de la paix, est une équipe qui est fondamentalement anti-indienne, musulmane affranchie, mais ça, la majorité des Bengalis, des Bangladeshis plutôt, sont musulmans. Ouais. Mais elle était très, très hostile aux Indiens, alors que le gouvernement de celle qui a été renversée était un gouvernement qui avait pris soin d'avoir de bonnes relations avec l'Inde voisine, hein, qui respectait les musulmans, mais qui surtout interdisait aux groupes terroristes musulmans de sévir sur le sol du Bangladesh. Ce qui est exactement le contraire de l'équipe actuelle. Donc s'il y a effectivement, l'Inde va avoir maintenant des motifs de dire le Bangladesh me veut du mal, puisque le gouvernement du Bangladesh laisse vivre sur son territoire des groupes terroristes musulmans qui vont intervenir en Inde pour faire une politique qu'on sait. Bon. Donc tout ça veut dire que M. Yunus non seulement est allé en Chine, lui a dit c'est avec vous que je vais travailler parce que l'avenir économique du Bangladesh est là, et que un autre personnage de l'État a dit de toute façon, si jamais, alors écoutez bien, si jamais l'Inde attaque le Pakistan, nous attaquerons l'Inde. C'est pas rien, parce que le Bangladesh, bon, c'est un pays pas très très riche encore, mais c'est quand même 180 millions d'habitants. Si vous mettez un conflit, alors on a là une espèce de synthèse de ce qu'a été la décolonisation à la britannique, c'est-à-dire qu'on a fait trois morceaux qui, à la faveur de tous les événements, changement de gouvernement, etc., coup d'État de couleur, etc., c'est encore un ensemble totalement explosif. Hein, Monsieur Gouja, Monsieur Modi qui fait des pogroms anti-musulmans, le Pakistan qui se donne de l'arme nucléaire, etc. Tout ça fait un ensemble qui ne tient pas encore très très bien debout, et on ne peut que souhaiter que les organisations qui existent, où ces gens-là se retrouvent, je veux parler de l'organisation de coopération de Shanghai, je veux parler des BRICS, servent de lieu où on essaye de calmer les débats et on essaye de parler d'un avenir qui ne soit pas sur ces bases de division religieuse, etc. Oh, le monde n'a plus besoin de ça. Le monde n'a plus, pas plus que les problèmes de la papauté. Le monde devrait vivre avec une compréhension laïque globale de la situation. C'est ça que j'essaye de dire. Dernière chose, ben je crois que j'ai à peu près tout dit. Dernière chose, la médiation russe, elle a un précédent. C'est-à-dire à une des précédentes guerres entre le Pakistan et l'Inde, l'arbitrage a été réalisé par un certain Alexei Kosygin, qui était à la tête de l'URSS. Ouais. Et il avait fallu donc une médiation commune des États-Unis et de l'URSS pour que le calme revienne entre les deux belligérants, qui à l'époque donc, ne se sont pas battus. Mais la conclusion de cette non-belligérance a été que, aussitôt après, tous les deux se sont mis à chercher l'arme nucléaire et tous les deux l'ont aujourd'hui, en dehors de tous les traités existants ce sujet.
Contre la venue de Jolani à Paris, il y aura une grande, grande manifestation à Paris contre cette venue.
Magnifique, voilà. Magnifique. Demain, donc.
J'ai entendu parler... À Paris, des amis m'ont dit...
Superbe. Voilà. C'est indispensable. Je salue les auteurs, les appels à la manifestation. Merci Roselyne, merci aux auditeurs.